Oui. Mais merci. Bon, merci à tout le monde et merci de l'invitation. J'essaye en particulier, bon, je chercherai un peu à vous, j'essaie de faire comme ça parce que sinon on voit pas, à vous présenter mon parcours des recherches, en particulier ma thèse et les postdoctorats que je fais avant. Qui particulièrement on peut relier par cette idée des frontières étatiques et sociales sur, et leur impact sur les couples binationaux puis mixtes, surtout pour ce qui concerne ma thèse. Et donc peut-être on pourra discuter tout à l'heure de ces différences entre les termes qui existent en anglais et pas en français, donc border and some boundaries. Et et je chercherai donc à vous donner des éléments pour vous mettre au clair des changements en matière de politique familiale en Méditerranée, en particulier en Europe, et donc leur effet sur les couples. Et comme ça c'est l'objectif de l'acte et de la rencontre aussi, j'essaierai de penser un peu à la transversalité du genre comme un élément intéressant pour revoir toute l'analyse en matière des politiques migratoires familiales. Et en particulier, ben, je réfléchirai un peu à la possibilité, même si en termes pratiques est un peu difficile, parfois concrètement, pour les jeunes chercheurs, de réfléchir en termes de consubstantialité des rapports sociaux. Je ne me concentrerai pas profondément sur la méthodologie, mais on pourra en parler après, comme ça je pourrai vous donner un peu, plutôt un panorama général. Donc parmi ma recherche des thèses, comme a préannoncé Constance, portait sur la mixité conjugale dans deux régions, en Alsace et en Vénétie. Et l'idée, c'était de réfléchir et d'appliquer la notion des stigmates tribaux et celle des contacts mixtes proposée par Erving Goffman au parcours des couples binationaux et puis mixtes formés par au moins un ressortissant d'un pays considéré arabe. Donc cette possible représentation de l'étranger, du migrant, de l'arabe avec tous les guillemets qu'on veut, et du possible musulman, comment impacter sur la vie des couples au fil du temps. Donc l'idée c'était de relever, et comme vous savez les stigmates tribaux sont définis entre la nationalité, Goffman en anglais pardon, des races et religion, et ont cette spécificité de se transmettre à la génération suivante. Donc c'était un outil assez intéressant pour réfléchir aux difficultés internes au couple, mais aussi à celles qui s'est présentées aux enfants qui, de leur part, n'avaient jamais décidé d'émigrer. Et parmi des résultats les plus intéressants, peut-être, je pense qu'on peut relever l'idée de cette migration intérieure des contacts, qui est celle qui théoriquement a rassé les conjoints nationaux, qui n'a jamais bougé de son pays, mais grâce au mariage avec un étranger migrant et arabe, peut être touché par les stigmates de son conjoint, donc selon la théorie, comme un initié, toujours dans les cadres de la théorie un peu goffmanienne. Mais dès ça, je me suis trouvée à réfléchir aussi et à relever comment, surtout depuis les années 90, c'était la nationalité à avoir un impact important sur les conjointes. Donc, c'est toute cette idée des couples binationaux et mixtes, la possibilité de vivre à deux cultures, de faire expérience de la culture de l'autre, mais c'est aussi concrètement, et de plus en plus, de faire l'expérience concrète de ce que ça signifie être un migrant dans les procédures administratives, dans les regards, dans les représentations. Et même si d'un côté tout ça semble bloquer les couples, avec une analyse un peu plus fine, on voit que les couples développent des stratégies, ont des ressources et peuvent d'une certaine manière réagir et résister à ce qui semble une stigmatisation qui les bloque. Et c'est intéressant de voir à travers toutes ces stratégies et les ressources aussi sur une perspective des genres. Ça, c'est un peu le cadre dans lequel, après mon discours, s'est inséré, dont le fait que les unions binationales sont de plus en plus le cible des politiques migratoires en Europe et en particulier des certains États. Surtout, il y a des discours autour de ces unions et les restrictions sont souvent justifiées par le fait que la migration familiale est la première raison d'entrer en Europe. Dans plusieurs États, elle a été par longtemps un peu plus que du 50% des titres de séjour délivrés. Et là, il faudra bien réfléchir, on peut en discuter tout à l'heure, mais sur repositionner toute la concentration qu'on a maintenant aussi à niveau académique sur la politique migratoire familiale. Mais celles-ci, elles doivent être absolument lues dans un cadre plus vaste des gestions migratoires et des régimes migratoires au sens plus large. Après, une des justifications les plus classiques, c'est le fait que ces mariages seront juste une nouvelle chaîne migratoire qui ouvriront la possibilité à des flux anciens de continuer à se maintenir et à rester et à arriver en Europe. Puis la question qui se résume dans un mot qu'il faut mettre entre guillemets peut-être, mais toute la question liée aux origines, donc aux personnes qui seront nées en France, en Belgique, en Italie, où j'avais fait mes terrains, et ils décident de se marier avec quelqu'un qui vient du pays d'origine de leurs parents, ou qu'ils ont acquis la nationalité par naturalisation et qu'ils se remarient au pays. Donc ça sont souvent décrits par les politiciens comme des unions très dangereuses pour notre société et en particulier pour toute cette idée d'une certaine identité nationale qu'on devrait préserver. Tout ça s'inscrit dans un contexte où les médias sont souvent reproduisent souvent ces discours politiques où ont une vision assez binaire des unions binationales. Soit on se concentre sur les mariages plutôt exotiques, donc les unions qui font parler d'eux parce qu'ils sont particulièrement intéressantes, ou on utilise les propos politiques et on les supporte avec des données statistiques parfois assez critiquable. Donc tout ça pose la question des qui finalement mérite de rentrer en Europe et sera conforme à l'entrée en Europe, donc quel conjoint et surtout quel type de famille l'État veut. Parce que comme on verra tout à l'heure, ben, la famille qu'on demande aux migrants ou où il y a au moins un conjoint migrant a des formes complètement différentes de celles qu'on demande aux conjoints tous les deux européennes et nationaux. Tout ça s'insère dans un cadre européen, donc ils cherchent à harmoniser des politiques migratoires et familiales depuis les années 93. Et depuis lors, il y a eu deux résolutions assez importantes, on pourra en parler, une sur les règlements familiaux, l'autre effectivement sur la mobilité des ressortissants des pays tiers qui sont conjoints des nationaux. Et on a un cadre assez intéressant, qui est un développement du droit européen assez fort, où les cours ont un rôle central, leurs décisions peuvent avoir des effets, ils sont mobilisés à niveau national, mais leur effet reste assez limité après à niveau local. Et encore, l'Europe qui conseille aux États la modalité meilleure de gérer les unions binationales. Donc on verra aussi la résolution des 93 et 97 et tous les suivants conseils qu'on offre par le biais des petites résolutions, par le biais des livrets spéciaux, pour comprendre comment lutter contre les unions de complaisance. Mais entre-temps, les États continuent à maintenir fort un intérêt pour garder les nécessités nationales au centre de leur politique. Donc, avant tout, cette harmonisation n'a pas d'impact effectif parce que chaque État a une assez large marge de manœuvre pour décider comment implémenter les politiques européennes. Et donc encore, ce qui ressort, c'est que la famille et les politiques migratoires restent fortes enracinées à niveau national et, j'utilisais les termes déformés, mais aussi déformés, je dirais, à niveau local par les pratiques des agents des premières lignes. Et tout ça dans un cadre où on ne peut pas fermer la migration familiale, on ne peut pas éliminer les droits à la vie familiale parce qu'on est dans une évolution assez importante des droits humains et de toutes les conventions et leur possible mobilisation à niveau au moins idéologique et juridique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir les différents niveaux, à la fois l'international, le national et le local. Pour faire rapide, on peut voir et on peut dessiner quatre époques, quatre régimes migratoires correspondants aussi à niveau des migrations familiales. Donc, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, aux années plus ou moins, hein, c'est pas une date précise, 70, bah, la migration est invitée, on a une migration des travailleurs, surtout des hommes, qui décident des, qui on pense être, voilà, là venus pour travailler, pour, et pour rester pas longtemps. Par contre, très rapidement, on doit faire aussi avec des besoins démographiques, la migration devient beaucoup plus stable, et il y a l'ouverture aux droits familiaux. Dès que ces ouvertures aux droits est conçue, en réalité, dans tous les États européens, principalement, par exemple, c'est le cas de la Belgique et de la France, on cherche à la fermer, on cherche à restreindre les droits au règlement familial. Et on est toujours, là c'est un peu, les deux se superposent, mais dans une époque où, par exemple, la femme qui s'est mariée avec un étranger perd sa nationalité. Alors que c'est exactement le contraire pour un homme. Et on a encore un cadre, par contre, dans le cas des mariages binationaux, où il y a une certaine protection. Donc, les mariages peuvent assurer un titre de séjour à un ressortissant d'un pays tiers qui s'est marié avec un conjoint national. Par contre, ça ne sera plus le cas déjà de la fin des années 80 jusqu'aux années, enfin, tous les années 90, où on assiste véritablement à des politiques plus vastes d'irrégularisation des migrants. Ça, c'est Catherine Devergne qui a réfléchi à ça au niveau aussi du droit. Mais c'est assez intéressant parce que dans les politiques familiales, on se retrouve dans la même dimension que dans les autres politiques plus spécifiques, comme pour les travailleurs ou pour les demandeurs d'asile. C'est la suspicion et la fraude qui priment dans les discours. Et les mariages ne donnent plus accès au titre, à un titre de séjour directement. Il faut prouver qu'on peut avoir un titre de séjour et qu'on peut le maintenir. Et parmi les conditions, il y a la nécessité d'éprouver une communauté de vie. Les années 90 se conclurent avec cette circulaire, cette résolution de l'Union européenne qui offre aux États les indications et les indices possibles des mariages de complaisance. Chaque État, quelques années après, applique cette circulaire dans sa législation nationale et les effets sont variables et différents selon les États. La circulaire dit que les indices sont au pluriel, donc on ne peut pas se fonder sur un seul indice pour penser qu'il y a un mariage de complaisance, mais qu'il faut un facteur d'indice. Mais les États souvent se fondent principalement sur la question de l'irrégularité, et ça reviendra souvent pour bloquer des unions. Par contre, dans les années suivantes, on est vraiment dans la phase des implémentations, des politiques restrictives, des recherches de la fraude et des changements aussi des tâches des agents de première ligne. Exemple, France et Belgique se retrouvent sur la même dimension sur ça, mais par exemple, les agents de l'état civil qui normalement n'ont rien à voir avec des enquêtes plus poussées, ils se retrouvent à faire des enquêtes pour évaluer la véracité d'un mariage, alors que c'est des agents de l'administration classique, et donc ils se retrouvent à appliquer des questionnaires qu'ils ont donnés à leurs supérieurs et à faire des entretiens aux deux conjoints séparément, les confronter pour voir si les deux, ils auront droit à se marier. Et si ça, ce n'est pas le cas, s'il y a un doute, ça déclenche des enquêtes de police, et donc tout un système qui est fait, tout un appareil étatique qui est fait pour contrôler et cibler des possibles fraudeurs d'amour, comme dit Nicolas Ferrand. Mais entre-temps, il y a tout un discours qui est fort lié à qui pourra après, aussi par la suite, à la suite du mariage, mériter de rester sur le territoire. Donc, dès la migration des contacts, assez positive et assez intéressante, il y a eu dans ma tête une volonté de se concentrer beaucoup plus sur les effets des politiques migratoires et en particulier aussi à la suite du mariage, vu qu'il y a une littérature assez développée sur ce qui se passe effectivement lors des contrôles à niveau de l'état civil afin que les couples ont l'accord pour se marier. Il y a toute une étape suivante qui est l'acquisition d'un titre de séjour et l'appui de la nationalité qui permet de stabiliser la vie des couples qui est fort précarisée. Donc ça ça, c'était le projet que j'avais fait à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles. Bon, son acronyme amoureux, c'était genre Awareness and Migration, Organization for International Family Rights Empowerment. Et l'idée, c'était de comparer trois pays et trois villes, et de se confronter, donc la Belgique, la France et l'Italie, et trois villes, pour garder tout cette sens du local dans l'implémentation des politiques migratoires et se concentrer principalement sur l'espérance des couples et sur celle des acteurs intermédiaires, principalement les acteurs associatifs. Donc ça, c'était un peu la question, étudier ce qu'a vient et qui et quoi vivent les familles binationales après l'institutionnalisation de leur union, comprend les logiques au niveau local et comprend le rôle des associations auxquels certains couples, et surtout celles plus démunies, s'adressent pour résoudre leur situation. Est-ce que ces associations sont un acteur vraiment tiers? Est-ce que, comme certains auteurs disent, ces associations, désormais, ils font partie du système des mises en œuvre des politiques migratoires à plein titre? Et pour réfléchir à ça, et toujours m'insérer dans cette situation, ce discours ambiant et cette situation contextuelle où les politiques migratoires sont d'un côté visées à contrôler, à sanctionner la fraude, et de l'autre côté, ils restent forts dans la nécessité de donner des droits, de rester dans le respect des droits humains et dans certains cas même la protection, comme on verra pour les victimes des violences, par exemple, conjugales. Mais cette opposition et cette situation contrastante est assez intéressant à étudier sous la perspective du réseau frontière, du border network. C'est une idée assez intéressante pour réfléchir à ce qui se passe quand la personne est sur le territoire, a déjà passé des contrôles des frontières classiques, elle se retrouve sur le territoire, mais même quand elle est là, ben, elle n'a pas encore toute la possibilité d'être visible, d'être stable, et de plus en plus, sa situation est précarisée par les lois. Ça est une matérialisation, c'est la matérialisation d'un certain nombre de politiques. Les étrangers et leurs partenaires expérimentent ça, et l'idée du Border Network, c'est effectivement utile pour pouvoir donner des indicateurs, si on veut, des éléments clés pour réfléchir à cette situation. Donc c'est l'idée que la frontière est désormais une frontière faite des points différents, qu'elles peuvent être des points humains ou pas humains. Et dans ces points-là, quand les personnes rencontrent la frontière sur ces points, c'est l'État qui s'est reproduit et se manifeste. Et donc, il y a des points qui peuvent être les différents niveaux de l'administration. Là, je ne vous ai pas fait un détail sur le frein, mais on pourra en discuter tout à l'heure. Donc, l'État civil, la préfecture pour ce qu'est la France, la police locale plutôt que la PAF, et tout ça. Et non humain, donc toute la dimension des dossiers, des documents de l'État civil nécessaires, des preuves à apporter, ces éléments concourent à visibiliser une pratique étatique et une politique étatique que les personnes expérimentent dans des situations concrètes, lorsque, par exemple, ils se retrouvent face à l'agent de la préfecture, par exemple. Et l'idée de ces réseaux frontières est de sélectionner ceux qui seront les migrants qu'on veut et bloquer ce qu'on ne veut pas. Donc c'est une espèce d'analyse en contexte, discuté politiquement, migration subie et choisie. Donc on peut choisir l'immigration, ça c'est une modalité mise en œuvre. Et par exemple la migration familiale, ça sera une migration souvent décrite comme subie. Et donc c'est bien filtré. Pour étudier cette approche, j'ai essayé de mettre en place, d'utiliser ces références, ces perspectives théoriques. Donc, de la part des membres des couples, penser à travailler les outils de la Biographical Policy Evaluation, donc de vraiment réfléchir parmi des suivis et parmi des entretiens en profondeur ou des récits de vie, comment les personnes évaluent les politiques sur leurs expériences, comme racontent leur expérience avec, par exemple, les administrations, et de l'autre côté, voir comment montre ou ne montre pas une conscience du droit. Donc comment, selon s'ils sont un homme ou une femme, s'ils sont nationaux ou étrangers, ces positions face à la loi, et donc concrètement face à des représentants de la loi, et décident de réagir. Pour ce qui est des associations, il s'agissait plutôt de réfléchir effectivement si les associations travaillent comme des acteurs de cause lawyering ou si effectivement ils font un travail de street level bureaucratie et voir comment, à niveau des contextes, ces deux lignes s'appliquent aussi selon les opportunités politiques. Bon, pour vous faire un panorama moins de certains résultats qui sont après ceux qui m'ont amené à choisir de travailler sur un autre acteur encore, je vais rapidement vous dire que selon les pays, voilà, par exemple, les couples, effectivement, lors de l'évaluation de leur, du réseau frontière sur leur parcours, ben, ils reproduisent assez bien en miroir les contraintes légales inscrites dans la loi et les bagues de la mise en œuvre. Donc en Belgique, il y a un fort réseau frontière qui est conditionnel parce qu'il faut prouver surtout des conditions pour pouvoir accéder à un titre de séjour. Et ces conditions sont indispensables. Au-delà, il se superpose toute la discrétionnalité de la commune et les lieux où les démarches sont faites. Puis en France, il y a plutôt un réseau frontière qui demande continuellement d'éprouver. Et donc classique, c'est les renouvellements, que maintenant on va voir, vu qu'il y a eu un changement législatif en 2016 qui va être mis en œuvre cette année, on verra les évolutions, mais jusqu'à maintenant, en France, les conjoints doivent renouveler leur titre de séjour et à chaque renouvellement, les deux doivent se présenter à la préfecture et apporter des nouvelles preuves de leur vie commune. Et donc ça mène à des abus de la part de la préfecture. Ces abus sont variables selon le contexte local et aussi des situations complètement inattendues où si les couples ne font pas appel à des personnes plus expérimentées, ben souvent ils ne s'en sortent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent faire appel. En Italie, par contre, il y a un réseau frontière qui sera défini « soft » parce que l'Italie a une politique migratoire vis-à-vis des couples binationaux assez souple, liée à ce que Giovanna Zincone appelait le familisme légal, vu la modalité de transmettre la nationalité sur la base du mariage avec un Italien. Et en général, où il y a un élément italien dans la famille ou dans les générations passées, ben c'est beaucoup plus simple d'accéder aux droits des citoyens. Néanmoins, il y a eu des moments de clôture très fortes et voilà. Par contre, les deux pays, France et Belgique, aussi en raison de leur histoire, utilisent les mêmes mots par rapport pour justifier leur changement législatif. Surtout, par exemple, la notion de mariage gris s'est bien transmise d'un État à l'autre. Et on a les mêmes, presque, nationalités fort ciblées par les discours. Ce seront donc les Marocains, par exemple, les Turcs en Belgique, qui sont les cibles de la politique migratoire familiale parce qu'ils ouvriront que des nouvelles chaînes migratoires. Et après encore sur les modalités d'implémenter les contrôles. Donc, en résumé, les sentiments des couples vis-à-vis du réseau frontière sont en Italie, les conjoints encore fort protégés en raison de ce que appunto Giovanna Zincone appelait le familisme légal et donc de cette du poids des attaches familiales par rapport à un élément italien dans le couple. Et de l'autre côté, en France et en Belgique, c'est très intéressant parce que ça confirme un négatif, malheureusement, mais la question de cette migration des contacts, même les Français et les Belges se perçoivent comme des étrangers. Par exemple, concrètement en France, sont amenés à se rendre dans toutes les administrations où ils seront son conjoint. Et donc, ils font vraiment expérience de ce que ça signifie être un migrant. Et en Belgique, ils sont même considérés des étrangers par loi. Parce que lorsqu'on doit permettre à les conjoints d'acquérir un titre de séjour, ben, il faut prouver les mêmes conditions que les étrangers quand ils font un regroupement familial. Et vis-à-vis aux attitudes un peu des couples, pour résumer, il y a ces trois figures qui peuvent être assez utiles pour dessiner des possibles idéotypes des membres des couples. Donc les demandeurs, les joueurs et les résistants, ces trois figures représentent assez bien ce que j'aurais trouvé sur le terrain pour, par rapport à comment les membres des couples ces positions face aux agents de l'État, face à leur dossier, à leur qu'ils leur demandaient, face aux juges s'ils font appel. Clairement, ces figures sont annoncées selon les expériences préalables des étrangers, en particulier par rapport à leur carrière migratoire. Pour les nationales, c'est la connaissance, par exemple, des régimes migratoires et des pratiques qui changent beaucoup, qui leur permettent d'être préparés et pas d'être complètement naïfs devant des administrations qui ne seront pas censées les connaître. Et la question du genre, du capital économique et social qui est très intéressant aussi. Et enfin, le fait que ces catégories-là ne sont pas des catégories figées. Les personnes peuvent passer d'une à l'autre au fil de leur vie. Et souvent, c'est grâce à l'action des personnes ressources ou d'associations et d'avocats qui leur aident à comprendre qu'ils ont des droits, même s'ils se retrouvent face à leur même état qui les bloque. Donc, dans tout ça, c'est quoi la place du genre? Pour revenir un peu en arrière, dans le cas de ma thèse, c'était aussi réfléchir et voir comment dans les couples, selon le lieu, selon si c'était en Italie ou en France, par exemple, il y avait des représentations fort stigmatisantes de l'entourage sur les couples. Parce qu'il y avait en particulier cette... J'utilisais les termes magnicité, je ne sais pas si c'est le plus adéquat. C'est vraiment une construction de la nationalité qui se relie à l'origine, à des possibles stéréotypes liés à la religion et au genre qui impactent fortement sur la réaction de l'entourage des couples par rapport à leur choix conjugal. Et donc, tout un ensemble de stéréotypes qui touchent aux tâches, aux rôles familiaux, à la question de la domination et au pas, une idée forte de la naturalisation des sexes, dans les représentations de la vie familiale et aussi dans le cadre de la parenté. Assez intéressant, après ça c'est qu'un des possibles éléments, on peut en discuter beaucoup plus, mais c'est vraiment intéressant de voir comment en Europe on a un regard. Donc souvent, l'homme arabe, ça sera vu comme Marine Goulet a parlé du sleeper, donc du possible migrant intégré, lambda, calme, qui pourra devenir un possible terroriste et donc fortement axé sur une opposition très forte de la figure des hommes arabes qui est de toute actualité. Et les femmes, au contraire, les femmes beaucoup plus dociles, l'exemple des femmes qu'il faudrait à la maison pour tout faire et pour savoir tout faire. Au contraire, dans la rive sud, les regards sont complètement inversés pratiquement. Une femme européenne, c'est une femme trop libre peut-être pour certaines familles d'origine. Il faudra un peu faire attention. Donc même un danger pour la stabilité. On a souvent des femmes qui ont enseigné tout ce qu'il faut faire à la maison, à la modalité traditionnelle. Et de l'autre côté, mais le fait que par contre, s'est marié avec un homme européen pour une femme en provenance d'un pays arabe était vu comme une forte, impliquait une forte mobilité sociale. C'était déjà bien de se marier avec un homme européen. Là, juste un exemple, qui c'était assez intéressant parce que traitait effectivement d'une question assez particulièrement liée au code des familles des pays musulmans. C'est donc la question de la tutelle, et c'est intéressant parce que la fille utilise la question de la tutelle. Camille s'est mariée avec Rachid, et ils disent rien à leurs parents. Justement, quelques mois plus tard, ils savent qu'ils sont en couple, et elle informe sa famille. Lorsqu'elle informe sa famille, son père, qui a un niveau d'études assez avancé, qui a une très bonne profession, et qui est estimé vraiment cultivé et comme il dit, un peu plutôt progressiste, mais il a sorti tout et n'importe quoi. Donc, tout ce qui sont les stéréotypes plus classiques. Et en plus, elle voulait que ça soit son mari qui vient avec elle pour justifier qu'ils ont décidé de se marier. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça renverse un peu les stéréotypes. Et Camille la relève bien dans son récit en disant ben, je n'ai pas estimé d'être passée de la tutelle de mon père à celle de mon mari lorsque je dois justifier mon mariage. Et c'est assez intéressant parce que toute cette dimension de la tutelle est une dimension classique qu'on retrouve dans les mariages dans la rive sud de la Méditerranée. Et c'est assez intéressant qu'elle le relève dans la modalité dans laquelle son père réagit à son choix de mariage. Pour revenir par contre à les relations entre les couples et l'État, ben, il y a clairement les questions plutôt liées à la loi, au code des familles dans les pays d'origine des couples en question, donc le fait de la possible ou pas possible transmission de la nationalité dans certains pays musulmans, enfin arabes, et de la part de la femme, donc la femme qu'elle ne peut pas, par exemple au Liban et en Jordanie, où j'avais interviewé les couples pour ma thèse, transmettre sa nationalité aux enfants, et au Maroc, c'est devenu tout récent, donc certaines dames commençaient à réfléchir à ça, même s'ils étaient, par exemple, coupés fortement de leur pays d'origine jusqu'à très récemment. La question de la conversion afin de transcrire les mariages au pays d'origine. Donc, le partenaire européen doit se convertir si on veut que les mariages soient reconnus, par exemple, au Maroc et au Liban, selon la religion, par exemple, au Liban. Mais donc, ça, c'est inscrit dans la loi. Ça reste fort aussi un élément qui impacte sur les sentiments d'appartenance des femmes. Donc, sur le fait de pouvoir ou pas pouvoir transmettre la nationalité, il y a tout un désir. Et surtout, ça c'est intéressant parce que ça arrive à un certain moment de leur permanence en Europe, dès finalement, on se rend compte d'avoir tout donné au pays des résidences européennes et aussi d'avoir tout transmis de ce pays à leurs enfants, mais d'avoir complètement ou très peu transmis de leur pays d'origine, donc la nationalité devient un exemple un peu emblématique. Et donc il y a cet effet très fort, parce qu'il y a des enfants qui retournent au pays, qu'ils redécouvrent le pays, qu'ils cherchent à avoir la nationalité et à récupérer la nationalité, et ils font ces démarches de manière plutôt autonome et un peu de recoucher aussi leurs parents. Et donc il y a toute cette idée un peu aussi des enfants qui vivent dans une espèce de transnationalisme émotionnel, on dira, où il y a une mythisation d'un pays qu'ils n'ont jamais vécu, donc certains ils se sentent beaucoup, enfin très attachés, même seulement par rapport à la connaissance qu'ils ont suite à des vacances estivales. Ça c'est souvent présent les cas des pays du Moyen-Orient, c'est souvent les cas du Liban par exemple. Et de l'autre côté, un transnationalisme qui est vécu et qui peut être vécu aussi par la suite. Donc, ces femmes qui réfléchissent et disent, c'est une plus que je peux donner à mon enfant dans son futur, pourquoi je ne pourrais pas le faire? Et là, il y a un exemple tout simple d'une dame. Désolée, là en bas, il y a l'extrait que je n'ai pas terminé. Mais je me suis faite, et il y a cette dame qui dit, mais j'ai tout fait depuis les années 80 pour m'adapter à la France. J'ai tout fait, mon fils a une éducation complètement française, je me suis mariée avec quelqu'un qui est catholique, personne ne m'a jamais rien demandé, je franchis l'interdit, elle dit, et mon mari, il n'a rien fait. En plus, cette dame, elle avait des gros soucis dernièrement avec la mère de son mari, qui était retournée fortement à la religion, et donc elle voulait qu'elle démontre que son fils aussi est inscrit dans la religion catholique. Elle dit, bon, je tout fais, ça, je trouve que parfois, je même trop fait, peut-être que c'était la même chose si je faisais rien. Par contre, mon mari, il n'a rien fait, il n'a jamais pensé de se convertir. Et à l'heure actuelle, enfin, je l'ai interviewé en 2009-2010, notre mariage n'est pas reconnu au Maroc, et donc je suis complètement enfants célibataires. Et quand je vais au pays, ben, il y a aussi des enjeux administratifs au pays qui sont qui remontent après dans la vie concrète de ces couples. Et là, il y avait un extrait que je commençais à écrire, qui c'est par contre un garçon italien marié avec une dame marocaine qui avait déjà fait tout un travail pour choisir sa spiritualité et par contre tombait amoureuse de cette dame qui en plus était irrégulière sur les territoires. Il disait déjà il faut absolument qu'on se marie parce que là on peut pas vivre dans l'ombre toute notre vie, donc c'est bien. Mais quand elle découvre que s'il veut faire transcrire son mariage au pays, il doit se convertir, mais elle disait, ça me fait complètement devenir fou, le fait que ça soit le roi du Maroc qui me demande de me convertir pour pouvoir transcrire, accepter mon mariage. Donc il faisait tout un speech, tout un propos sur l'État, sur le roi du Maroc et sur les codes des familles du marocain. Par contre, dans une autre dimension, plutôt en Europe et concrètement dans les administrations, ben, il y a ce qu'on peut résumer, on peut décrire et résumer comme une espèce de paternalisme étatique fort axé vers les femmes. Ce sont surtout les femmes qui reportent les entretiens les plus lourds ou au moins qu'ils ont perdu du temps à me raconter dans les détails leurs sensations face aux administrations quand ils ont dû passer l'audition pour avoir l'accord du mariage. Souvent, elles relèvent que les questionnements portent souvent sur le fait qu'il n'y avait pas de Français présents pour se marier en France, il fallait vraiment trouver un étranger. Fort pour résumer. Et cette dame est assez intéressante sur le récit parce qu'elle montre bien les doubles visages de l'administration. Elle est interviewée par deux femmes, la chef des services et une autre personne beaucoup plus jeune. Et elle me dit, voilà, la personne beaucoup plus jeune, elle s'attient, elle me pose les questions du formulaire finalement, alors que la chef des services, elle joue beaucoup sur une espèce de confiance et d'amitié possible entre deux femmes, aussi assez adultes. Et de l'autre côté, ben, elle lui dit de faire attention, elle lui demande si elle est convaincue et tout ça. Et de l'autre côté, ben, elle lui répond sèchement ben, qu'elle doit pas lui mentir. Donc il y a cette double visage des je te protège et entre-temps je te contrôle. Donc tu sais que t'es contrôlée. Et c'est assez intéressant que ça soit entre femmes et femmes. Et pour moi ça c'est un peu le top. Mais ça, c'est l'état civil d'une commune bruxelloise où l'agent m'explique un peu comment poser les questions, comment on fait, qu'il y a des cellules de police axées mariage blanc en Belgique. Ils sont vraiment bien spécialisés là-dedans. Mais lui, ce qu'il relève, et c'est l'exemple qu'il fait, est assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui suppose dans sa position d'agent civil savoir c'est quoi une bonne musulmane. Donc il dit, bah, comme elle est venue voiler, ils sont là, ils me disent qu'ils habitaient déjà ensemble avant les mariages, bah, je sais que c'est un mariage de complaisance parce que les musulmans ne peuvent pas habiter ensemble avant de se marier. Donc c'est déjà un point très négatif. Donc toute cette suspicion et comment une certaine vision à la fois des rapports des sexes et de l'ethnicité joue dans les relations avec l'État. Par contre, il y a aussi les questions. Ça a un impact aussi à l'intérieur des couples, donc des deux membres du couple, en raison de leur statut administratif et aussi en raison parfois de leur genre et d'autres types de capitaux. Donc souvent, ne fait que créer des fortes tensions dans les couples. Par exemple, là, bon, c'est assez simple, c'est Élise qui est en cohabitation légale avec Mohamed. Ils auront une vie assez difficile. Mohamed est irrégulier. En Belgique, la cohabitation légale est contrôlée, qui est un peu l'équivalent du PACS, est contrôlée exactement comme les mariages. Donc, il doit passer des entretiens. Et elle m'explique très bien comme au bout d'un moment, pour elle, c'était impossible. Elle ne pouvait plus de vivre avec quelqu'un qui était irrégulier sur les territoires. Donc, c'est elle qui a poussé pour un mariage. Donc, ça, c'est aussi la question, le fait que les mariages et l'institutionnalisation de l'union est devenue une espèce d'obligation, une injonction, comme dit Manuela Salcedo, ou une stratégie, parce que finalement, les couples doivent bien essayer d'éprouver à vivre comme un couple normal sur les territoires. Et finalement, elle dit, j'ai dû faire beaucoup de pression parce que lui, il ne voulait pas qu'on commence les démarches de mariage. Mais pas parce qu'il ne m'aimait pas, mais pour le simple fait qu'il avait déjà fait beaucoup de rencontres avec l'administration. Il savait que son statut d'irrégulier était un fort stigmate et donc il ne savait pas à quoi s'attendre par la suite. Et là encore, bon là c'est un gros paquet, mais c'est encore plus intéressant parce que c'est vraiment la suspicion élevée à l'absurde et la dimension qui se retrouve aussi en France assez intéressante de la superposition entre mariage gris et au mariage des complaisances des différentes formes et les cas de violence. Alors, les mariages gris, pour qui ne sait pas ce qu'on définit comme un mariage gris, ça sera une espèce d'arnaque sentimentale. Donc, le conjoint national sera arnaqué par son conjoint étranger parce que finalement, l'autre s'est caché par des sentiments amoureux qui n'existaient pas. En réalité, il voulait justement avoir les droits au séjour. Les mariages gris existent et donc est sanctionnable en France et en Belgique depuis un certain nombre d'années. Et donc il y a pas mal d'associations, après si vous voulez je vous donne des liens, vous pouvez aller voir tout ce que ça donne, qui soutiennent les victimes des mariages gris. Mais donc dans l'état civil et dans toutes les différentes administrations qui s'occupent du contrôle des mariages, il y a de plus en plus des outils d'éveil pour les victimes des mariages gris. Alors qu'il y a aussi des possibilités de protection de la violence conjugale dans le cadre d'un règlement familial ou dans le cadre d'un titre de séjour pour raison familiale. La vraie question, c'est que bon, il y a des éléments très délicats parce que chaque législation protège pas tout le monde, mais en général, c'est que par exemple, on voit fortement en Belgique, c'est que les administrations ont du mal à assister les femmes victimes de violences. Et ils se retrouvent souvent, ces femmes, à perdre leur titre de séjour sur la dénonciation d'un mariage gris de la part du conjoint. Ça advient aussi en France, un peu moins, parce que la France a un espace de protection majeur, mais par exemple, souvent les personnes victimes de violences obtiennent des titres de séjour sur la base des questions des santé plutôt que des violences. Mais là, vous voyez, l'exemple est clair, mais on pourra en détailler par la suite. C'est le fait que la dame va à dénoncer des violences, cherche, déjà c'est très compliqué, souvent les personnes ont du mal à aller porter plainte, ils vont porter plainte, ils veulent après la retirer, ils sont dans des situations de forte détresse, et la loi protège sa plainte. Normalement les policiers doivent informer l'office d'état civil en Belgique pour qu'il y ait une espèce de veille sur ces cas, sur cette personne, et qu'on ne lui retire pas tout de suite le titre de séjour, parce qu'un titre de séjour peut être retiré par absence des communautés de vie. Donc si la femme quitte le foyer conjugal, elle va perdre directement son titre de séjour. Alors, les policiers, ce qui se passe normalement, c'est qu'avant de tout faire, va écouter les maris. Et les maris, souvent, va faire ce travail des raccourcis et de dire, bah, finalement, souvent, ils dénoncent un mariage gris. Ils se sauvent la peau et évitent d'être en auteur de violences conjugales. Et donc, tout ça engendre deux procédures différentes qui ont des effets complètement différents. Et c'est beaucoup plus rapide de retirer un titre de séjour que d'apporter des preuves des violences conjugales, de refaire un dossier pour obtenir les titres de séjour, de démontrer tout ce qu'il faut démontrer, et à savoir en Belgique, il faut aussi démontrer qu'on est autonome à niveau économique dans les 3 mois de la plainte. Et ça, c'est très important parce que la Belgique axe beaucoup sur les ressources économiques. Et donc, voilà, c'est toute une superposition des suspicions avec des effets très inattendus ou peut-être un peu pensés aussi. En réalité, là, c'est une dame d'une association qui me raconte ça, et c'est plusieurs policiers et associations qui relèvent cette situation qui c'est un des exemples. Donc, à partir de ça, mon intérêt et surtout le projet que je vais conduire ici, c'est beaucoup plus axé par contre sur les professions légales, donc concrètement les avocats et les juges, et les associations spécialisées, mais comme un port d'entrée exploratoire de certains cas, pour comprendre leur travail dans toutes ces situations assez compliquées et leur marge de manœuvre, c'est l'ENA. Surtout au niveau local, parce que, voilà, de manière très simple, lorsqu'on a un refus d'une administration, on peut faire appel. Et le premier lieu où on fait appel, c'est le tribunal administratif, qui est complètement assez surchargé par des dossiers relatifs à des questions liées à la migration. Et donc, c'est devenu une espèce d'usine. Et dans ces cas, il se redessine aussi des lignes des politiques familiales à niveau plus large, à niveau national. Ce sont des tribunaux qui sont fort politicisés. Et donc l'idée, c'est effectivement de répercuter un certain nombre de décisions, de voir quand et pourquoi sur des décisions, sur des cas similaires, il y a des décisions différentes, et à quel point et à quel moment il y a eu des restrictions dans les décisions prises par les juges, et comment ça a été intégré, si a été intégré ou contesté par des circulaires administratives ou par les lois suivantes. Et donc voilà, c'est l'idée de faire un peu les tours des différents acteurs qui se retrouvent autour de la migration familiale et principalement des unions binationales. Chose qui est assez intéressante, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est depuis longtemps qu'on contrôle les unions binationales de manière fort différente, mais les formes nouvelles sont sont beaucoup plus contraignantes pour la vie des personnes. Et même d'une manière, si on peut regarder tous les acteurs, même pour les administrations elles-mêmes, qu'ils ont une charge de travail nouvelle et énorme par rapport liée à ces dossiers des migrations familiales. Voilà la question que les familles où il y a au moins un conjoint migrant ont vraiment doivent répondre à des conditions qui n'existent plus ou qu'on ne demande plus aux autres familles. On est en train de reconnaître toutes les possibles formes familiales alternatives, mais pas pour les migrants. Et de l'autre côté, l'effet qu'il peut avoir et l'intérêt qu'il y a à niveau des relevés des nuances pour les résultats et dans l'analyse, une analyse en termes des rapports des sexes et des différents rapports sociaux. Qui permet vraiment de nuancer certains résultats qui sera trop simpliste peut-être donné sans une analyse en termes, par exemple, des genres, si on veut déjà qui s'est concentré sur la question du genre. Et voilà, c'est un peu tout.
Merci beaucoup, Laura, pour cet exposé particulièrement.
Si vous avez des questions.